l'écoute de RFI, 19h ici à Paris, 18h en temps universel, 13h à Washington, 20h à Goma. Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Adrien Delgrange.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et au sommaire ce soir, Donald Trump est à Davos.
Le président américain qui déroule le tapis rouge aux investisseurs. Venez produire en Amérique et vous paierez moins d'impôts, lance Donald Trump aux chefs d'entreprise réunis en Suisse pour un forum économique mondial. C'est le dossier de cette édition. Autre grand titre, la République démocratique du Congo. Dans l'est du pays, de violents combats entre l'armée congolaise et un groupe armé, celui du M23, se poursuivent près de la grande ville de Goma. Au sommaire également les finances publiques de la France. Le projet de budget 2025 franchit l'étape du Sénat, mais nous verrons que le chemin est encore long avant une adoption finale. Nous parlerons cinéma, Oscar 2025, Emilia Pérez de Jacques Audiard, nommé dans 13 catégories, un record pour un film non anglophone. Et puis dans le journal des sports, Christophe Diremzian, ce soir la crème de la crème du basket est à Paris.
Le show NBA dans la capitale, promis des deux matchs délocalisés de la saison régulière entre les Indiana Pacers et les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, la star française de retour au pays.
Et après Journal des Sports, nous irons à Washington pour évoquer les questions d'identité. Elles ont été clés dans la victoire de Donald Trump à la présidentielle. Que disent-elles ces questions identitaires? Eh bien de l'Amérique. Aujourd'hui, nous appellerons la correspondante de l'hebdomadaire Le Point qui s'est penchée sur cette question.
Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Mais tout d'abord, les expulsions d'immigrés clandestins aux États-Unis. C'était l'une des promesses de campagne de Donald Trump. Ce matin, trois jours après l'investiture du président américain, la police de l'immigration américaine annonce avoir lancé plusieurs raids pour arrêter des hommes et des femmes en situation irrégulière. Nous sommes en direct des États-Unis avec l'un de nos correspondants, David Thompson. David, très symboliquement, ces premières arrestations ont visé des villes sanctuaires. Autrement dit, ces fiefs démocrates qui s'oppose justement à la police anti-immigration de Donald Trump.
Oui, ces raids ont été lancés au petit matin à Chicago et à Boston, deux cibles qui ne doivent rien au hasard. Ce sont deux bastions démocrates, deux villes sanctuaires, donc pro-migrants. À Chicago, le maire a même promis de s'opposer à cette politique d'expulsion de masse et aux rafles de migrants dans sa ville. En réponse, Tom Homan, l'homme que Trump a nommé tsar des frontières pour expulser les migrants, a menacé de poursuivre en justice ce maire de Chicago s'il venait à l'empêcher de mener à bien sa mission. On sait encore peu de choses sur l'ampleur de ces premières arrestations. Kais, la police de l'immigration a choisi de médiatiser en acceptant les caméras de Fox News dans ses rangs. Ces premiers raids ne visent pas des familles, ils ciblent uniquement des individus déjà condamnés et recherchés pour des faits de violence graves. L'administration Trump fait donc ainsi coup double avec ses premiers raids en frappant chez les démocrates pro-immigration et en arrêtant des sans-papiers condamnés en justice pour montrer que cette politique anti-immigration vise d'abord à assurer la sécurité des citoyens américains.
David Thompson, en direct des États-Unis, nous apprenons qu'une dizaine de refuges sont d'ores et déjà en construction dans le nord du Mexique, à la frontière avec les États-Unis, pour justement anticiper l'expulsion de ces Mexicains, annonce la nouvelle administration Trump.
Il n'était pas en Suisse, mais c'était sa première intervention sur la scène internationale depuis son retour à la Maison Blanche.
Donald Trump, qui vient de s'exprimer au Forum économique mondial de Davos, deux jours après son investiture, le président américain n'a pas fait le voyage, vous le disiez, mais il s'est adressé au forum par visioconférence. Guilhem Delteille, bonsoir.
Bonsoir Adrien.
Donald Trump a d'abord commencé son intervention par une attaque en règle de l'administration Biden.
Oui, Donald Trump, comme à son habitude, n'a pas mâché ses mots concernant l'action de son prédécesseur.
Mon administration agit avec une rapidité sans précédent pour réparer les désastres dont nous avons hérité de la part d'un groupe de personnes totalement ineptes et pour résoudre toutes les crises auxquelles notre pays est confronté. Il s'agit tout d'abord de faire face au chaos économique causé par les politiques ratées de l'administration précédente.
Et à l'inverse, il est très sûr de l'effet que sa présidence aura sur son pays comme sur le reste du monde.
Il y a trois jours, j'ai prêté serment et nous avons commencé l'âge d'or des États-Unis. Notre pays sera bientôt plus fort, plus riche et plus uni que jamais. Et la planète entière sera plus pacifique et plus prospère grâce à cet incroyable élan et à ce que nous faisons et allons faire.
Et alors, Guilhem Delteille, quel est son programme pour, à l'en croire, rendre son pays plus fort, plus riche et le monde plus pacifique ?
Eh bien, sa principale arme, Adrien, il l'avait déjà dit, sera les droits de douane. Il promet par exemple des baisses de taxes aux entreprises étrangères qui viendraient produire aux États-Unis et des droits de douane à celles qui ne le feraient pas. Des droits de douane qui nous permettront de remplir nos caisses de centaines de milliards de dollars et même de milliers de milliards de dollars, prévient-il. Cette arme, il entend aussi l'utiliser dans ses relations avec les autres pays. Il a notamment cité l'Union européenne, la Chine et son voisin canadien qu'il a proposé d'intégrer aux États-Unis.
Nous avons un énorme déficit avec le Canada. Ce ne sera plus le cas, nous ne pouvons pas tenir. Comme vous le savez probablement, j'ai dit, vous pouvez toujours devenir un État, nous n'aurons plus de déficit, nous n'aurons pas à vous imposer de droits de douane, etc. Mais le Canada a été très dur avec nous au fil des ans, et il n'est pas juste que nous ayons un déficit de 200 ou 250 milliards de dollars.
Donald Trump a aussi profité de cette première tribune internationale depuis son investiture pour évoquer d'autres sujets moins économiques.
Oui, il s'est attribué le mérite du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas palestinien. Il a dit aussi qu'il espérait rencontrer rapidement Vladimir Poutine pour mettre un terme à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
Guilhem Delteil pour notre dossier du 19h.
Dans l'actualité africaine de ce jeudi soir, des affrontements dans l'est de la République démocratique du Congo.
Des combats opposent l'armée congolaise au groupe armé du M23. Les forces armées congolaises et leurs alliés se battent contre les combattants du M23. Eux sont soutenus par l'armée rwandaise. Ces combats ont déjà provoqué d'importants mouvements de population. Sujet détaillé dans Afrique Soir juste après cette édition. L'actualité au Proche-Orient où des centaines de Palestiniens ont été contraints de quitter le camp de Jenin en Cisjordanie occupée et ce, au troisième jour d'une opération militaire de l'armée israélienne contre des groupes armés. Opération qui a fait au moins 12 morts. Des bulldozers, des avions, des véhicules militaires blindés ont été utilisés par ces soldats israéliens dans cette opération qui est appelée Mur de Fer, lancée deux jours après le début d'une trêve dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas. Et puis en raison de l'intensification des frappes russes, les autorités ukrainiennes ont décidé d'ordonner l'évacuation de familles avec des enfants. 16 localités de la région de Kharkiv sont concernées. Au total, 267 enfants et leurs familles doivent partir, précise le gouverneur de Kharkiv.
19h07 ici à Paris, vous êtes à l'écoute du grand journal du soir sur RFI avec Adrien Delgrange. Comme on dit, c'est passé, Adrien, comme une lettre à la poste. Le Sénat a voté le projet de budget 2025 pour la France.
Un vote sans encombre. La suite, en revanche, pourrait être moins évidente. Plus de 3 mois après son dépôt au Parlement, le projet de budget de l'État pour 2025 a franchi donc aujourd'hui l'étape du Sénat. Nous retrouvons pour cela en direct du Sénat Charlotte Urien-Tomaka. Charlotte, l'issue du vote était certes sans suspense et donc le projet de loi a été adopté.
Oui, 217 votes pour et 105 contre. Le projet de loi de finances 2025 a donc été adopté en première lecture ici au Sénat. La droite dispose de la majorité à la Chambre haute et dans le détail, l'alliance droite centriste soutien du gouvernement a voté pour, contrairement à la totalité de la gauche, y compris le groupe socialiste pour qui, je cite, le compte n'y était pas. Prochaine étape, donc, vous l'avez dit, le 30 janvier avec la commission mixte paritaire à l'Assemblée pour aboutir à un texte de compromis susceptible de résister à la censure de l'Assemblée nationale. Commission donc composée de 7 députés et 7 sénateurs. S'ils y parviennent, le projet de budget sera ensuite soumis aux députés à l'Assemblée nationale. Dans la semaine du 3 février, ils devront donc effectuer un ultime vote, à moins que le Premier ministre François Bayrou décide de faire usage de l'article 49.3. D'ici le 30 janvier, date de cette CMP, le PS espère encore faire bouger les lignes et continue de mettre la pression sur le gouvernement.
Les précisions de Charlotte Urien-Tomaka.
Toujours en France, cette nouvelle alerte concernant les robinets d'eau.
Oui, puisqu'un composé chimique, le TFA, très compliqué à retirer de l'eau, a été retrouvé dans des circuits d'eau potable, les circuits d'une large majorité des villes à travers le pays. Stéphanie Schuller, c'est le résultat d'une étude menée par l'association de consommateurs l'UFC Que Choisir et l'ONG environnementale Génération Future.
L'acide trifluoroacétique, ou TFA, est une substance qui résulte de la décomposition d'autres produits chimiques toxiques de la famille des PFAS, aussi appelés polluants éternels. Avec seulement 2 atomes de carbone, le TFA est de très petite taille et échappe ainsi aux techniques de décontamination. Résultat, dans 20 villes françaises sur 30 analysées, il dépasse largement la norme de référence en vigueur, comme à Paris, Lyon ou Bordeaux. Les scientifiques manquent encore de données sur la toxicité toxicité du TFA et ses conséquences sur la santé humaine. Mais comme l'explique Pauline Servant, toxicologue de l'ONG Génération Future.
Les effets qu'on retrouve assez systématiquement dans les études, donc chez les animaux, sont des effets sur le foie. Et il y a aussi une étude qui est assez préoccupante qui est faite chez des lapins qui indique des risques de malformation des fœtus. Et donc cette étude a poussé l'Allemagne à proposer à classer le TFA en tant que reprotoxique, toxique pour la reproduction.
Les auteurs de l'étude réclament l'arrêt urgent des émissions de TFA dans l'environnement et donc l'interdiction des substances qui se dégradent en TFA, comme les gaz fluorés utilisés dans les frigos ou encore certains pesticides.
Dans l'actualité française, ils ont été enlevés, séquestré puis libéré. Ça s'est passé dans l'est du pays. Le cofondateur de Ledger, société spécialisée dans la sécurisation des crypto-monnaies, et sa campagne ont vécu un cauchemar éveillé. Ils ont d'abord été enlevés à leur domicile mardi matin. Les ravisseurs réclamaient le paiement d'une importante rançon en crypto-monnaie d'ailleurs. De nombreux policiers ont été mobilisés pour finalement une fin heureuse et la libération des deux kidnappés. Le procureur de Paris doit tenir une conférence de presse à ce sujet dans les prochaines minutes.
L'actualité européenne, hier l'Irlande qui a un nouveau Premier ministre.
Le dirigeant centriste irlandais Michael Martin a été élu aujourd'hui chef de gouvernement par le Parlement. Il prendra la tête d'un gouvernement de coalition dominé par les deux grands partis de centre-droit près de deux mois après les élections législatives. Michael Martin, 64 ans, a déjà été Premier ministre de l'Irlande entre 2020 et 2022.
En Asie, la chute d'un des animateurs télé les plus célèbres du Japon.
Masahiro Nakai, ex-star du boss band SMAP, très populaire dans les années 90, annonce mettre fin à sa carrière après des accusations d'agression sexuelle. Durant plusieurs semaines, les plus grands médias japonais ont ignoré des révélations à son encontre, jusqu'à l'intervention cette semaine d'un fonds d'investissement américain. La suite, c'est Frédéric Charles qui nous la raconte.
C'est le fonds américain Dalton, un actionnaire important de la chaîne Fuji, qui force Masahiro Nakai à mettre fin à sa carrière. Dalton a crié au scandale, accusé la chaîne Fuji de couvrir les faits reprochés à l'ex-leader du boys band SMAP. Selon l'hebdomadaire Shukan Bunshun, la victime a dit à ses collègues avoir subi en juin 2023 une agression sexuelle de la part du présentateur vedette. Elle a été traitée par un médecin. Elle a entre-temps perdu son emploi. Durant plus d'un an et demi, Masahiro Nakai a continué d'apparaître dans plus de 200 émissions de télévision. En intervenant publiquement, Dalton a incité les plus grands annonceurs de Fuji comme Toyota à retirer leurs spots publicitaires. Le scandale survient après que le groupe de boys band Johnny Associates a admis que son fondateur décédé, Johnny Kitagawa, a violé des centaines de jeunes garçons pendant des dizaines d'années. Et l'ex-star du groupe SMAP, Masahiro Nakai, était issu de cet empire des boys band. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
En Thaïlande, le drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT+, flotte avec fierté. C'est félicité aujourd'hui la première ministre Shinawatra. Le mariage entre personnes de même sexe est désormais autorisé dans ce pays depuis aujourd'hui. Cette loi sur l'égalité devant le mariage marque le début d'une plus grande prise de conscience de la société thaïlandaise sur la diversité des genres, précise la première ministre. Et puis refermons ce journal en parlant de cinéma. Avec 13 mentions aux Oscars, Emilia Pérez, le film français, bat tous les records de nomination pour un film non anglophone. C'est dire, Sophie Torlotin, si la comédie musicale de Jacques Audiard, déjà primée au dernier festival de Cannes, a séduit Hollywood.
Emilia Pérez portait les couleurs de la France dans la course à l'Oscar du meilleur film étranger. Non seulement le film français est retenu dans cette catégorie, mais, et c'est remarquable, il concourt également dans les catégories reines. Meilleur film, meilleur réalisateur pour Jacques Audiard, meilleure actrice pour la comédienne trans Carla Sofia Gascogne, meilleur second rôle féminin pour Zoé Saldana, sans compter 3 nominations pour la musique. Deux titres du film sont en lice pour le même Oscar, celui de la meilleure chanson. Les compositeurs Camille et Clément Ducol doublent donc leur chance de remporter le trophée. « Emilia Pérez devance même largement avec ses 13 nominations les deux autres favoris, The Brutalist et Wicked. Cette comédie musicale tournée en espagnol sur un narco-trafiquant changeant de genre et de vie a donc conquis Hollywood. Un exploit d'autant plus symbolique au moment où Donald Trump, dans son discours d'investiture, s'est livré à une attaque en règle contre les personnes transgenres.
Et puis juste avant de refermer cette édition, le cri d'alarme de la présidente directrice générale du musée du Louvre, le plus grand musée au monde, a les pieds dans l'eau. Inondations, infiltrations, problèmes de température, les œuvres risquent d'être mal conservées. La directrice espère ainsi obtenir un soutien financier de l'État pour venir en aide à toutes ces belles œuvres.
Et la question se posait notamment pour la fameuse Joconde de Léonard de Vinci. Merci beaucoup Adrien Delgrange. C'était le grand journal du soir sur RFI. Allez, au programme des prochaines minutes. Nous irons à Washington pour évoquer les questions d'identité, ces questions qui ont été clés dans la victoire de Donald Trump à la présidentielle. Que disent-elles de l'Amérique aujourd'hui? Eh bien, nous appellerons la correspondante de l'hebdomadaire Le Point, qui s'est penchée sur cette question. Et puis, c'était il y a 5 ans, jour pour jour, le tout premier confinement mondial, qui en appelait tant d'autres, lancé ce confinement depuis Wuhan, en Chine. Point de départ, Wuhan, de la pandémie de Covid-19. Comment vit-on aujourd'hui, 5 ans plus tard, dans cette ville? Reportage à suivre, mais pour l'heure, voici les sports. Et c'est avec Christophe Dirimbian. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Romain.
Allez, le basket pour commencer. On commence pas par du foot, tiens. Bercy, c'est la fin du prêt pour le premier des...
Bercy, fin prêt exactement.
Fin prêt pour le premier des deux matchs de la prestigieuse NBA délocalisée à Paris. Eh bien, une double confrontation entre les Indiana Pacers et les San Antonio Spurs, l'équipe de... Ah ben voilà pourquoi on en parle. Victor Wembanyama.
Évidemment, le retour provisoire au pays de l'enfant prodige, natif de la région parisienne, expansionnaire de Nanterre, de Boulogne-Levallois, finaliste des JO de Paris contre les Américains sur le même parquet de l'Accor Arena où il revient soutenu par une salle pleine à craquer et un parterre d'anciennes gloires de la balle orange et de l'NBA comme Tony Parker, Manu Ginobili ou encore Joakim Noah. Mais pas de méprise, hein. Attention, le pivot géant et ses coéquipiers ne sont pas en tournée promotionnelle. San Antonio ne pointe qu'à une modeste 12e place du classement de la Conférence Ouest et ces deux rencontres font partie d'une saison longue et toujours dense, donc aussi importante que d'habitude dans la course aux phases finales. Victor Wembanyama.
Ce qui est très intéressant, c'est que voilà, on a un enchaînement de matchs, mais il faut être tout autant concentré pour chacun d'entre eux. L'état d'esprit dans lequel on rentre, après voilà, plusieurs dizaines de matchs dans une saison, on ne pense même pas à 2 matchs à l'avance. On est toujours sur le prochain et on oublie très rapidement le dernier aussi. Donc, même si c'est dans un contexte incroyable pour moi, c'est ma responsabilité d'aller auprès de mon équipe et de mes coachs. Voilà, je suis concentré à fond sur tout ce qui est tactique.
Victor Wembanyama avec notre Victor à nous, Victor de Cistrano, aux premières loges à Bercy, le chanceux, pour suivre ce premier duel entre les Pacers et les Spurs à partir de 19h, temps universel. Le second duel, ce sera samedi.
Allez, le foot, on y vient après la Ligue des Champions. C'est la suite de la 7e journée de la Ligue Europa ce soir et Lyon est actuellement chez les Turcs de Fenerbahçe.
Et on vient de passer le cap de la première période et de la première demi-heure de jeu en première période, 0-0 entre les deux équipes. L'OL qui poursuit un double objectif dans ce match, garder sa place parmi les qualifiés directs pour les 8e de finale et faire en sorte que son entraîneur Pierre Sage garde la sienne sur le banc, lui qui se retrouve un petit peu fragilisé par une série de mauvais résultats et une humiliation en Coupe de France. De son côté, Nice est en Suède sur la pelouse d'Elfsborg Boras, plus proche de la trappe que du miracle. Les Aiglons sont 35e, ils tâcheront surtout de faire bonne figure et de montrer qu'ils sont enfin capables de hisser leur niveau de jeu dans les compétitions européennes, ce qu'on n'a pas franchement vu jusqu'à présent, à la grande déception de l'entraîneur niçois Franck Haes.
En championnat, je pense que on est placé, on est là où on est espéré être, avec un début de saison qui, en termes de points, en tout cas sur les 4 premiers matchs, était insuffisant. Puis après, sur la partie Europa League, on est passé à côté de la compétition. Je veux dire, on a fait un match du niveau de l'Europa League. C'est le premier contre la Real Sociedad depuis où c'était médiocre, où c'était insuffisant. Donc on est quasiment éliminé de cette compétition-là alors qu'elle n'est même pas terminée. Donc de ce côté-là, c'est une déception.
Un Francaise donc un petit peu dépité avant que ses joueurs affrontent Elfsborg à 20h temps universel. Parmi les autres matchs de la soirée, Manchester United face aux Glasgow Rangers, c'est la Lazio Rome, leader du classement, contre les Espagnols de la Real Sociedad. Dans un contexte malheureusement d'ores et déjà tendu par une attaque d'ultra du club italien hier soir à Rome contre des supporters adverses. 9 des supporters de la Real Sociedad ont été blessés. L'un d'entre eux est dans un état grave.
Allez, le tennis. Et on connaît désormais la fiche de la finale féminine de l'Open d'Australie. Elle opposera une grande favorite contre une joueuse moins attendue.
Oui, d'un côté, la double talente du titre est numéro 1 mondial, la Biélorusse Arina Sabalenka, tombeuse en demi de l'Espagnole Paola Badosa, 6-4, 6-2. De l'autre, l'Américaine Madison Keys, bientôt trentenaire et de retour en finale d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis l'US Open 2017. Elle a gagné ce droit en écartant Iga Świątek, la Polonaise, deuxième meilleure joueuse du monde, battue 5-7, 6-1, 7-6. Enfin, les Bleus du handball en lice actuellement à Varaždin en Croatie pour leur match du tour principal du Mondial masculin 2025. C'est face aux Pays-Bas, un match nul et les tricolores sont en quart de finale et je peux vous dire que c'est déjà bien parti puisqu'à quelques minutes de la fin de ce match, les Français mènent de 7 buts. 32-25.
Ah ben merci Christophe Dirimzian pour l'actualité sportive de ce jeudi soir. Il est 13h21 à Washington. Donald Trump tous azimuts. Le début de second mandat du président américain monopolise l'actualité internationale tant il multiplie les décisions. On va rejoindre la correspondante de l'hebdomadaire Le Point aux États-Unis, Claire Ménial. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes intéressé aux questions identitaires qui ont été clés dans la victoire de Donald Trump en novembre dernier. Le titre de votre papier à retrouver cette semaine dans Le Point, c'est la revanche anti-woke de l'Amérique trumpiste. D'abord, est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, rappeler ce qu'est le wokisme et comment cela est-il perçu aux États-Unis ?
Alors déjà, il faut savoir que woke, c'est un terme qui existe depuis les années 30 aux États-Unis. Il a été très popularisé dans les années 2010, lors des émeutes à Ferguson, parce que un jeune homme noir avait été tué par la police. Ça veut dire être éveillé aux injustices. Et c'est un terme qui a été récupéré par le mouvement trumpiste, par la droite ces dernières années. Donc c'est un terme qui n'est plus du tout utilisé par la gauche, alors que c'est au départ un terme de gauche, mais encore très utilisé par le trumpisme et la droite.
Est-ce que c'est un point qui est important pour la population américaine aujourd'hui ?
Alors ce qui est intéressant, c'est que ces thématiques étaient relativement absentes de la campagne. Donald Trump a fait campagne sur l'immigration et l'inflation. C'était vraiment les deux thèmes qui ont motivé les électeurs. Mais on peut dire que ça sous-tendait beaucoup toute cette campagne et la mobilisation. Et en particulier, ça a joué un très grand rôle auprès des cols bleus, de toute la population ouvrière, les électeurs ouvriers des États-Unis, pour lesquels le programme économique de Kamala Harris aurait pu être tout à fait intéressant. Il y avait beaucoup d'aide aux primo-accédants, beaucoup d'aide aux jeunes parents, de la construction de logements qui était prévue. Mais ce que disent certains experts, et notamment des leaders de syndicats, c'est que le discours économique a été rendu inaudible par une espèce de gouffre culturel qui s'est créé entre ces populations de col bleu et le Parti démocrate qui, à leurs yeux, est devenu élitiste.
Est-ce là où le Parti démocrate a péché et est-ce justement sur ces questions identitaires que Donald Trump a pu faire la différence, ce qui aurait été clé dans sa victoire ?
En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a aucune prise de conscience parmi les démocrates. Là, ces derniers jours, je suis pas mal au Capitole, au Congrès. C'est une question qui revient souvent dans les conférences de presse et j'essaye de le demander aux élus démocrates, que ce soit donc des représentants ou des sénateurs dans les couloirs. La théorie est que Donald Trump a mené sa campagne sur le mensonge, qu'il a monté en épingle des questions comme la question trans, qui est restée pour le coup très présente dans cette campagne. C'était, on va dire, la seule question identitaire qui a vraiment surnagé. Il y a très peu d'acceptation du fait que peut-être eux-mêmes sont allés un peu trop à gauche pour leur propre base démocrate.
Mais c'est intéressant parce que justement la question trans, et vous l'écrivez dans votre article, elle est reconnue comme la dernière préoccupation des Américains. Comment de fait expliquer que ça ait pu peser aussi lourd dans la victoire de Donald Trump ?
C'est absolument vrai. C'est-à-dire que si vous demandez aux gens ce qui a motivé leur vote, ils vont jamais vous mettre la question trans. Encore une fois, les questions qui ont vraiment été centrales lors de cette élection, c'était l'immigration et l'inflation. Mais ce que disent ceux qui étudient la question, et notamment ce leader syndicaliste que j'ai interviewé, c'est que c'est un symbole de l'insularité culturelle des démocrates. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, ça va trop loin et ça prouve à quel point ils sont détachés de la base.
D'une manière plus large, Donald Trump a remporté, évidemment, ça c'est quelque chose qui a été souligné, le vote populaire lors de l'élection présidentielle, contrairement à son premier mandat. Qu'est-ce que cela dit sur les valeurs aujourd'hui, et vous en parlez dans votre article, vous l'écrivez dans votre article, les valeurs aujourd'hui de la population américaine?
Il y a un retour de bâton évident hein, sur certaines de ces idées qui étaient très raciales à une époque et puis qui ensuite ont basculé plutôt sur des questions de genre et de sexe. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est peut-être difficile à percevoir depuis la France, mais ce qu'on appelle le peak woke ici aux États-Unis est probablement situé en fin 2021, au début 2022. Ça se voit dans la récurrence de certains thèmes comme intersectionnalité ou privilège blanc ou microagression dans la presse, à la télévision, même dans les titres des best-sellers. Donc il y a eu une sorte de fatigue de ces idées.
La revanche anti-woke de l'Amérique trumpiste, article à retrouver cette semaine dans l'hebdomadaire Le Point et sur votre site internet évidemment. Merci beaucoup Claire Ménial depuis Washington. Et puis j'ajoute votre ouvrage La guerre des Amériques. Merci.
Au revoir.
C'était il y a déjà 5 ans l'arrivée de la pandémie de Covid-19 qui allait déferler littéralement sur la planète avec des conséquences multiples qui se font encore ressentir aujourd'hui. C'était il y a 5 ans jour pour jour le premier confinement dans le monde qui était annoncé à Wuhan, cette ville à jamais rattachée à la pandémie puisque c'est de là que la pandémie de Covid-19 est partie à Wuhan où aujourd'hui encore les stigmates demeurent. Voici un reportage de notre envoyé spécial Cléa Broderst.
La vie a repris son cours à Wuhan, mais les habitants se souviennent, parfois dans la douleur, des mois les plus difficiles de leur vie, comme nous le dit Tang, qui tient un petit magasin près du marché de fruits de mer Huanan.
Au début, ce n'était pas grand-chose, mais plus les rumeurs se répandaient, plus elles devenaient exagérées et on se sentait tous à cran. Dire que le marché est à l'origine de toutes ces infections, c'est complètement absurde. Des rumeurs circulaient même sur le fait que les gens d'ici mangeaient des chauves-souris. Aucune preuve, juste leur imagination débordante.
Ils sont nombreux à dire que le marché a été blâmé à tort. À l'époque, ce qui comptait pour eux, c'était de survivre, explique Yui, un chauffeur de taxi.
À Wuhan, causer des ennuis, c'est comme demander la mort. L'approche était la suivante, mieux vaut arrêter à tort que laisser passer quelqu'un. Sur TikTok, on voyait des vidéos de Pékin ou de Shanghai où des gens disaient « Je veux sortir, je viens d'outre-mer, je veux juste faire un jogging ». Et la police restait là, essayait de les raisonner. Mais des vidéos similaires à Wuhan? Non, si vous osiez faire quelque chose comme ça, c'était chercher des ennuis.
Le nombre de victimes est une incertitude qui demeure, souligne Li.
Nous ne savons pas combien de personnes sont mortes. Il n'y a pas eu de bilan officiel. Les critères pour les statistiques étaient très stricts. Par exemple, on ne comptait que les personnes officiellement diagnostiquées et décédées à l'hôpital. Et encore, il fallait mourir dans un service spécifique ou dans une zone désignée pour être pris en compte. Les crématoriums fonctionnaient 24 heures sur 24, sans interruption. Wuhan comptait 4 crématoriums qui fonctionnaient tous sans interruption. S'ils brûlaient un corps toutes les demi-heures, je vous laisse faire le calcul.
Aujourd'hui, les habitants de Wuhan veulent tourner la page, oublier à quel point leur ville a pu être silencieuse. Pour Dang, cela a aussi révélé la persévérance des habitants.
Tout le monde était uni dans la lutte contre la pandémie. Les personnes âgées, les jeunes, on faisait tous preuve de patience. L'esprit d'entraide, les bonnes actions sans se soucier du profit personnel se sont renforcées. C'est toujours le cas aujourd'hui.
Wuhan tente de reprendre du poil de la bête, voulant à tout prix laisser derrière elle les stigmates de cette période douloureuse. Cléa Broderst de Wuhan, RFI.
RFI, 18h29, en temps universel. Dans une minute, ce sera la première édition d'Afrique Soir. On fera un point sur la situation dans l'est de la RDC. Et puis, je vous donne le programme de ce qui suivra à 19h, temps universel. Ce sera le journal de Véronique Rigolette. 19h10, eh bien, TU, votre session reportage pendant 50 minutes. Accent d'Europe sera en Lituanie. Et puis, le grand reportage sera au Festival Amani de Goma en RDC. Restez donc à l'écoute de RFI.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Torlotin.
Qu'est-ce que l'amour inconditionnel ? Qu'est-ce qu'une mère ou un père peut tolérer, accepter, accueillir d'un enfant qui dévie de la route et de ses valeurs ? On en parle avec le film « Jouer avec le feu » qui montre un père impuissant à empêcher son fils de basculer dans l'ultra-droite.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Torlotin, Elisabeth Le Quéret.
Samedi, à partir de 15h10 TU.
RFI.